Quimper Bretagne Occidentale et la coopérative Cuesta présentent les portraits sonores d'Erwan Perec. Une balade sonore pour vous plonger dans l'identité d'un quartier de gare riche en anecdotes.
Vous êtes en gare de Quimper. Notre départ est imminent. Nous vous souhaitons à toutes et tous un agréable voyage.
Vous voyez le panneau des départs ? Restez immobile. Vous êtes prêt ? La balade peut commencer. Laissez-vous guider. Veuillez ajuster vos écouteurs et vos casques. Vous m'entendez maintenant par l'oreille gauche et droite. Réglez le volume afin de rester en contact avec ce qui vous entoure. Vous allez marcher sur les pas d'Erwan Perec, écrivain qui, pour son projet de roman, a pendant 4 ans fréquenté intensément la gare où il a rencontré ceux qui rendent ce quartier si vivant.
Bonjour, je me présente Erwan Perec, le neveu de Georges Perec. Je suis passionné de gare. J'ai créé la fondation Garec, qui récompense les plus belles rénovations de gare. Et ça m'amène à voyager dans toute la France pour suivre des projets de transformation. Et il y en a beaucoup. C'est comme ça que je suis arrivé à Quimper en 2020, lors du lancement du chantier. Ici, j'ai découvert un quartier inspirant. La gare de Quimper, c'est à la fois une fin et un commencement. Le terminus de la ligne et la porte d'entrée de toute la Cornouaille. Ici, des gens se posent, en attendant de se construire un avenir ou une identité. Comme beaucoup d'entre elles, cette gare m'a paru particulièrement romanesque. Elle m'a donné envie de me lancer dans l'écriture. Peut-être que moi-même, j'avais besoin de m'écrire une nouvelle histoire, d'aller à la rencontre de personnes inconnues, pour découvrir quelque chose qui me relie à eux et à ce quartier. Je me suis donné le temps des travaux pour écrire, et j'ai vu la gare se métamorphoser. J'ai vu la Cernam disparaître, le mur de l'avenue de la Libération tomber, les voitures céder la place à d'autres mobilités. Et si je ne sais pas encore quand mon roman sera achevé, d'ores et déjà, ce que j'ai vécu ici dépasse mes espérances. Jamais je n'aurais cru à cette destinée. Je vous en parlerai plus tard. À présent, je vais vous dévoiler le chapitre 1 de mon roman. Voilà, ce serait l'histoire d'un homme qui cherche à poser ses valises. Mon personnage s'appelle Roy, et comme moi, il découvre la gare de Quimper. C'est parti. Roy s'est laissé transporter en regardant défiler le bocage breton, et arrive au petit matin en gare de Quimper. On est tous à la merci d'une histoire inattendue. Le destin guide nos pas pour nous faire découvrir des parts de nous-mêmes, et ainsi nos richesses. Roy traverse le hall de la gare et jette un bref coup d'œil aux couvertures de magazines du Relais Presse. Il franchit la porte du hall, s'arrête sur le parvis, une valise à roulettes à ses pieds, une Samsonite. Il respire, comme s'il prenait de l'élan avant de s'élancer vers son aventure.
Nous vous invitons à sortir du hall de gare pour rejoindre le parvis. Une fois à l'extérieur, vous pouvez apercevoir en face de vous la devanture noire et violette du bar Le Derby. Vous ne pouvez pas vous tromper. Avancez dans cette direction. Vous traversez le passage piéton pour arriver sur le trottoir d'en face. Vous êtes sur l'avenue de la gare. Devant vous, le bar du Derby. au croisement avec la rue Jean-Pierre Caloc. Si vous vous rapprochez de la fenêtre, vous apercevrez sans doute Didier.
Bonjour, un petit café s'il vous plaît. Derrière le comptoir, c'est Didier qui sert et parle en même temps à bride abattue à tous les clients. Lui aussi, comme tous les personnages qui font le décor du quartier, son histoire commence ailleurs.
Je suis arrivé en 85 au derby. Mes parents étaient de Morlaix. Moi, j'étais cavalier de concours hippique, jumping. À l'époque, j'étais chez Jean-Luc Henry, propriétaire de chevaux en Normandie. Je dressais les chevaux. C'était une place en or. Le gars qui m'a remplacé a fait les JO l'année suivante. Mon père a acheté ce bar tabac PMU à Quimper et il a eu besoin d'un coup de main. Il avait 59 ans, ça commençait à être compliqué. Alors j'ai dit à mon patron, « Mon père a besoin de moi, je pars. » Et je suis parti le matin. J'ai fait le trajet avec ma 4L camionnette, là, tu sais, avec les vitesses au volant. Je suis arrivé et le soir même, je faisais la fermeture du bar. Et peu après, j'ai rencontré Brigitte. Et puis 35 ans après, on est toujours là. C'était le déclic du changement de carrière. Par contre, une fois par an, je fais la semaine de l'élevage à Fontainebleau avec les finales nationales de chevaux de dressage, là, les 4, 5, 6 et 7 ans. Magnifique. Je retrouve d'un seul coup, toute l'ambiance de cette époque. Puisqu'en fait, tous les gars que je connaissais dans le milieu des chevaux se retrouvent. Toute la France est caisse une fois par an. Je me fais une cure de jouvence.
Roy plonge dans ses pensées en regardant son café tourner et décrire des spirales. Les trajectoires de chacun passent par des aiguillages et des correspondances. Roy se déleste de sa valise à la consigne du bar et quitte le derby. Sur la droite, devant la casquette de la passerelle, il y a cette file de voitures de taxi, avec Philippe, chauffeur.
J'ai une anecdote. Il était 5h40 du matin, j'ai un client qui vient à ma voiture et me demande « Est-ce que vous pourriez m'amener à La Rochelle ?» Et là, je me dis intérieurement, hein, « Oh, la bonne blague, La Rochelle !» Et je souris. Le client est là face à moi, un peu perdu. Hein, un monsieur âgé, distingué et très bien habillé. La cravate de mode avec un beau blazer. Je regarde le tarif et le kilométrage, il en avait pour 800 euros. Ah, oh, bah c'est pas anodin d'aller à La Rochelle depuis Quimper. Et le monsieur qui me dit « Vous voulez que je vous paye comment, en espèces ou en carte ?» Comme ça vous arrange, je lui réponds. Bon, je vais vous payer par carte. Et donc, il a payé avant de partir. Hein. Parce que si arrivé à La Rochelle, la carte, elle passe pas, hein, la carte est passée. Je suis parti le conduire à La Rochelle. En discutant, le monsieur m'explique qu'il est arrivé trop tôt pour son train et il s'est assoupi dans la gare. Puis il s'est mis à rêver et qu'il a vu des extraterrestres. Quand il s'est réveillé, le train, il était parti. Et ce client-là, c'était... comment il s'appelle quelqu'un de mondialement connu, là, vous voyez, qui fait des parfums avec une maison dans le secteur. Un parfum éponyme, décédé récemment. Oh, je ne l'ai pas reconnu sur le coup, mais pourtant je l'avais vu à la télé. Un nom de parfumeur qui disait avoir assassiné le pharaon Toutankhamon. Oui, voilà. Paco Rabanne.
Le soleil se lève avenue de la Libération. C'est ici que se trouve aujourd'hui la nouvelle gare routière. C'est par là qu'autrefois sont arrivés les Américains. L'avenue de la Libération. Avec son mur, qui n'est plus qu'un fantôme. Le mur de Berlin pour certains, et des lamentations pour d'autres. Ce mur faisait face aux commerçants comme une ombre, un empêchement. Et qu'ils espéraient tous voir tomber depuis des lustres.
Moi, c'est Fonche Le Reste, marchand de meubles. Ici, de père en fils, depuis 1860. Comprenez qu'on ait un peu la mémoire de l'avenue de la Libération. Elle a été beaucoup plus sympathique qu'elle n'est actuellement. Avant, il y avait des platanes tout du long. Des enfants qui jouaient, c'était une avenue proprette, avec un pépiniériste et des commerces partout. Une boucherie, une charcuterie, une épicerie, un boulanger, des crêperies, il y avait des restaurants... Et même un cabaret qui recevait des musiciens et des poètes. Ici, moi, j'ai vu Mouloudji. Et puis, c'est tombé à volo. Il y a eu un désintérêt pour cette première entrée de Quimper. Mon père est décédé en 1985. Il me disait, le mur, écoute. Tu le verras tomber. Il est décédé et j'ai dit la même chose à mon fils. Eh bien maintenant, c'est fait. Ouf.
Roy sent que cette histoire le concerne. Il regarde une dernière fois la gare et décide de se diriger sur sa gauche, vers le centre-ville.
Avancez, vous aussi, sur le trottoir le long de l'avenue de la gare, en direction de l'abribus. Vous allez passer devant l'hôtel de la gare et hop, directement après, faufilez-vous sous le porche à votre gauche. Suivez les vieilles pierres. Vous êtes dans la cour de l'impasse de la gare. Changement d'ambiance, ici c'est plus calme. Avancez vers l'odeur de beurre qui s'échappe de la crêperie chez mamie. On va faire une petite pause ici.
La vie est faite de mystères, de portes qu'on pousse qui révèlent notre complexité. Derrière la vitre, Roy aperçoit Julie qui s'affaire en cuisine et toujours en musique.
Ma crêperie s'appelle chez mamie parce que c'est chez ma mamie que j'ai appris à faire les crêpes. En plus, à la fac, je faisais des phares et des pâtisseries familiales. J'insistais pour que les gens goûtent. Les copains m'appelaient « Mamie Gâteau ». Et aussi, je finançais mes études en faisant des crêpes à la crêperie Saint-Georges, à Rennes. J'ai fait 5 ans d'études d'anglais, puis de linguistique. C'est un collègue qui m'a dit « Attends, tu fais des études de prof et tu fais des crêpes depuis des années. Pourquoi tu ne ferais pas prof de crêpes ?» L'idée du siècle. Je me suis renseignée, il existait une formation de crêpier. Du coup, j'ai postulé pour être formatrice à l'AFPA. J'ai été prise à Brest, j'avais 31 ans. Mais je me suis sentie hyper jeune pour enseigner. Du coup, j'ai arrêté au bout d'un mois. Je sentais qu'il fallait que j'aie ma propre affaire. Et davantage d'années de pratique pour être formatrice. Et là, j'ai eu l'opportunité de ce local. Avant, ici, c'était l'hôtel T-Braise. J'étais entourée par l'hôtel Moderne et l'hôtel Pascal, qui d'ailleurs m'ont amené ma première clientèle. Si quelqu'un m'avait dit ça quand j'étais étudiante, tu vas retourner dans ton Quimper natal ouvrir une crêperie ? Moi qui faisais des études de langue pour voyager, pour enseigner le français à l'étranger. Finalement, retour à la case départ. Je ne regrette rien. C'est une aventure incroyable.
Roy sait bien que les rencontres nous façonnent et nous guident. Nous évoluons dans le temps et l'espace avec nos ancrages émotionnels. Dans chaque hôtel, il y a des histoires pittoresques. L'hôtel de la gare, c'est Antoine et Alexandra qui ont repris l'affaire.
Quand notre hôtel a été totalement rénové, on réalise notre premier complet. Hyper content.
C'était un comité d'entreprise, des employés commerciaux d'une société alimentaire. On passe un très bon moment.
Et là, dans la soirée, une vieille pluie d'orage qui s'abat. Des trombes d'eau, c'était phénoménal, on n'avait jamais vu ça.
Incroyable.
La soirée se passe et je vais chercher quelque chose dans la lingerie. Et là, la douche.
La douche, ça descendait du plafond, l'eau se répandait partout sur le linge, depuis la toiture.
On panique et Antoine se demande comment on va pouvoir refaire la mise de l'hôtel pour demain matin.
Sous la flotte, on commence à sauver le peu de linge qu'on pouvait mettre à l'abri. La toiture est foutue, comment on va faire ? Moi j'étais en panique totale. Hein. On passe la nuit à refaire du linge.
Le lendemain matin, on fait notre service petit déjeuner, bien éprouvé par la nuit. Et là, comme par hasard...
Et comme par hasard, il y a notre ancienne propriétaire qui passe. Bah, on lui explique et voilà qu'elle nous dit... Mais vous avez été voir sur la toiture parce que des fois, il suffit qu'il y ait un truc qui se coince dans la gouttière et ça peut déborder. D'accord.
Antoine monte sur le toit et là, bingo. Il découvre un énorme nid de goéland qui s'était foutu entre deux chéneaux, qui empêchait l'eau de passer et du coup, ça débordait. Antoine essaye d'enlever le nid avec un sac plastique, sauf qu'il s'est fait attaquer par les goélands. Les goélands qui passaient en hurlant au-dessus de la tête comme des avions de chasse. Antoine était mort de rire et moi, ça me fichait la trouille.
Ce qui est bouleversant, c'est quand même de passer en moins d'une heure d'un état d'euphorie, avec notre premier complet, à une catastrophe naturelle. Bah, au final, tout s'est bien fini. Ouais.
D'ailleurs, vous savez, souvent, des clients nous appellent et demandent une chambre avec vue sur mer. Bah, c'est vrai qu'à Quimper, la mer n'est pas loin.
Ah non, elle n'est pas loin, non.
Chaque enseigne, chaque façade, chaque regard et chaque sourire révèle une histoire qui mérite d'être entendue. Certes, ce matin, Roy aurait pu prendre un ticket pour Douarnenez ou Pont-l'Abbé, vers une destination sur la côte au hasard. Mais ici, quelque chose l'attire. Roy est enivré par ses rencontres et la visite du quartier. Il sent que le blues qui l'accompagnait en foulant ses premiers pas sur le quai de la gare s'est dissipé pour un nouveau départ.
Retournez sur l'avenue de la gare en revenant sur vos pas. Continuez votre chemin sur votre gauche, en sortant du passage, vers le centre-ville de Quimper. Toujours tout droit, en direction de la croix de la pharmacie. Vous la voyez clignoter au fond ? Vous passez devant la terrasse de l'île aux saveurs. Continuez toujours tout droit. Vous arrivez à présent devant une porte noire logée dans un encadrement en pierre. On indique le 29 ou bien le 27 bis. Peu importe, continuez. La belle bâtisse classée derrière le grand portail en fer forgé. C'est l'ancienne Banque de France. Continuez. Traversez la rue Julien Guillard, chirurgien de la marine. Toujours tout droit. Sur le trottoir, vous voyez des pins qui ont été plantés en 2023. En face, vous allez passer devant un vestige en pierre à côté d'un petit parking. Allez toujours tout droit. Rendez-vous au pied de la croix de la pharmacie. Vous voyez en face de la pharmacie ce petit îlot de nature. C'est la place Jacques-Cartier. On va se retrouver là-bas. Vous pouvez emprunter les passages piétons pour vous y rendre. À tout de suite. Ça y est, nous y sommes. Faisons une pause. D'ici, on voit la rue des commerces et une petite maison couleur saumon que vous ne pouvez pas louper.
Roy contemple la devanture. Au Como, le soleil donne. C'est un restaurant où on mange des recettes du Gabon. Mona accueille, tandis que sa mère cuisine.
Como, c'est le nom du fleuve au Gabon qui relie les 9 provinces à la capitale. Chez nous, au Como, on cuisine l'odika. C'est une sauce à base de fruits d'acacia qui a le goût du cacao. C'est pour ça qu'on l'appelle chocolat africain. C'est un plat typiquement gabonais. Il y a tout un travail. Ça dure au moins 2 semaines. On prépare la fève pour obtenir l'odika. D'abord, on la fait revenir pour que ça durcisse. Ça sèche. Après, on gratte, on écrase et on fait la sauce pour obtenir le moelleux du chocolat africain. L'odika se mange avec l'agneau, le poulet, le bœuf et même avec le poisson.
Roy est en train de vivre un long voyage et comprend qu'ici tout est possible dans l'accueil. Des personnages arrivent avec des parcours incroyables, s'installent dans le quartier et y font souche, comme ce Vietnamien, bien connu au Café Solidaire.
Moi, c'est Andrea, je suis bénévole ici au Café Solidaire. Concernant l'intégration dans le quartier, je peux vous raconter une belle histoire. En 1975, un réfugié vietnamien qui avait fui le communisme et la terreur des camps de rééducation, il a atterri en France. Il a été accueilli ici par une association diocésaine. Ce monsieur, il a logé dans un appartement qui est là, juste en face de nous. Il a si bien travaillé qu'il a eu l'opportunité de racheter l'immeuble. Il a réussi dans sa nouvelle vie et il s'est intégré. Quand même, sacrée réussite. Or, il y a 3-4 ans, il y a eu une arrivée importante de gens originaires d'Afghanistan, avec des parcours de vie compliqués, avec une grande pauvreté et parfois un illettrisme prononcé. Il a accueilli des familles entières ici, avec parfois 3-4 générations. Et aujourd'hui, ce monsieur offre à ses familles ce même accueil dont il a bénéficié en tant qu'exilé politique du Vietnam. Il a loué à des prix très raisonnables, à des familles qui vont, qui viennent, parce que les gens travaillent dans des boulots difficiles. Les abattoirs à découper la volaille, ramasser des fruits et des légumes. Au final, ils arrivent à s'intégrer et réussissent à trouver d'autres logements.
De la rue Jean Jaurès à la rue Aristide Briand, jusqu'à l'avenue de la Gare, c'est une guirlande d'agences d'intérim. Tuyauteurs, chaudronniers, soudeurs, tourneurs-fraiseurs, plombiers, peintres, carreleurs, moquettistes, bardeurs, tourneurs, maçons, couvreurs, chauffagistes, plaquistes, sans compter les métiers du service, de la restauration, de la grande distribution. On trouve tous les métiers à la gare. En se dirigeant vers le centre-ville sur la droite et en empruntant la rue Jacques-Cartier, Roy aperçoit le passage à niveau numéro 512.
Suivez Roy par les 2 passages piétons successifs, vers le petit parking, oui. Hop, 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 nous n'allons pas enjamber la voie ferrée tout de suite. Vous voyez en face de vous la sculpture en granit? Oui, devant la maison rouge, là. 2 femmes bretonnes avec une coiffe. À leurs pieds, il y a une pelouse. On y va. Passez le parking et arrêtez-vous sur le pont des 2 Cornouailles. Sous vos pieds passe l'Audet. Derrière vous, les passerelles du centre-ville. Devant vous, les rails qui mènent à Brest.
Roy écoute le flux de l'Audet qui, depuis le centre-Bretagne, coule jusqu'à la mer. Il fixe le pont sur lequel passe la voie unique qui s'éloigne vers le bout du Finistère. Depuis le passage 512, ce sont des tunnels et 22 autres passages à niveau jusqu'à la forêt du Crânon. Au sujet de cette voie unique, Roy entend encore les mots de Sébastien, contrôleur bavard et passionné par son métier, avec qui il a discuté dans la rame.
Mesdames et messieurs, bonjour. La SNCF et la région Bretagne vous souhaitent la bienvenue à bord du TER Bresgo à destination de Brest. Il desservira Châteaulin-Embranchement, Pont de Buis, Dirinon, Landerneau et partira à 18h07. Merci.
La ligne qui va à Brest est une voie magnifique. Beaucoup de ponts, de la verdure. Parfois, je fais 4 allers-retours par jour et c'est superbe. Et sur cette ligne, on n'est pas sur l'électrique, hein, on est sur un engin thermique. On ressent les ralentissements, les accélérations et surtout, ce sont des petites gares. Parfois, avec le défilé de ces paysages, je suis dans un état de fiction. Châteaulin, oh, c'est splendide, quelle que soit la saison.
Revenons sur nos pas. On va franchir maintenant le passage à niveau 512. Voyez le panneau, défense absolue de toucher aux fils électriques, même tombés à terre. On va traverser ensemble. Attention, c'est dangereux, ne nous attardons pas. Un rail, deux rails, trois, quatre, cinq et six rails plus loin, nous sommes sur l'impasse de Laudet. On va s'arrêter là, sur le trottoir, devant la maison au numéro 11. Elle est toute en granit, vous ne pouvez pas la rater. Pas la 3, mais bien la 11, au pied du lampadaire.
Roy a franchi ce qui le séparait de l'imaginaire de la cité 10, du roi Gralon, le peuple Kelly et les légendes de Laudet. La première maison en granit, c'est chez Morgane, la fée des contes celtiques de Cornouailles qui initie et adouble les preux chevaliers. Ici, au 11, il y a Laurent Boas.
Moi, j'habite face à la gare depuis 5 ans. J'adore. Passage à niveau, je l'entends plus. On s'habitue. Au bruit. Comme on s'habitue au silence. Le train de Brest, parfois, il couine, mais bon, ça va. Laurent Boas, c'est mon nom d'artiste. Ça raconte mon histoire. Avec les serpents. Là, dans le terrarium, c'est Daisy, un boa. Avec elle, je fais des photos, des démonstrations. Ça fait 7 ans que je l'ai. Au début, j'ai vu des serpents chez des gens, j'ai flippé. Puis après, ça m'a intéressé. J'en ai eu un, puis deux, puis plusieurs. Je connaissais des gens qui faisaient des photos et qui m'ont demandé si je pouvais leur prêter mes serpents. J'ai commencé à prêter, puis je me suis rendu compte que je pouvais pas maîtriser les dérivés parce que je travaillais avec des professionnels qui vendaient les photos, à droite, à gauche, comme ça. Donc, j'ai acheté un appareil photo et j'ai commencé à photographier des nus, des femmes avec des serpents. J'ai fait quelques expos, puis la télé. Aujourd'hui, Daisy, c'est le serpent le plus connu de France. Elle est connue sur les réseaux. On a travaillé son image. Daisy, je l'ai depuis 10 ans. Elle va bien. Elle mange une fois par mois. Je la nourris avec des lapins congelés. Un lapin, 800 grammes. Les animaux morts, hein, parce que c'est mal vu de donner du vivant. Puis c'est plus pratique. Et surtout, c'est pour la protéger. Parce que dans la nature... Il faut savoir qu'il y a des rongeurs qui tuent les serpents. Si elle rate sa proie, un rongeur peut se défendre et la mordre. C'est une sécurité. Par contre, elle n'est pas un danger pour les humains. Ce qui fait peur, c'est son étrangeté. Daisy, c'est grâce à elle que je suis devenu artiste.
Roy éprouve une étrange fascination. Immobile, il reste là à regarder une pie danser sur le rail, tandis qu'une locomotive approche et s'arrête. Roy voit Pierre apparaître à la vitre latérale de sa cabine de conducteur. Celui qu'on ne voit jamais et qui nous transporte ailleurs.
Salut, moi c'est Pierre, je suis mécanicien. À l'époque du charbon, on disait chauffeur. Un conducteur mécanicien doit répondre à une sélection de tests d'aptitude psychologique. Il y a un niveau de sécurité hyper important. On conduit quand même des trains qui roulent à plus de 200 km/h. Comprenez, jusqu'à 1200 personnes à l'intérieur. Deux rames TGV, c'est 20 voitures et 480 mètres de train. Pas le droit à l'erreur. Aujourd'hui, le conducteur sélectionné fait une école, avec des prérequis pour pouvoir conduire un train avec le diplôme certifié par l'État. Après, on a des contrôles en permanence. Des enregistreurs mémorisent tous nos faits et gestes à la seconde près. Là, Depuis que j'ai mis la rame en service, tout ce que j'ai touché est enregistré. Pas encore d'enregistreur vidéo, mais on a un enregistreur numérique, ce qu'on appelle une boîte noire dans un avion. Si on dépasse la vitesse autorisée, le train est stoppé net. Il s'arrête automatiquement. Entre collègues, on appelle ça le KGB.
Le feu carré au-dessus de sa tête est au rouge et les câbles dessinent comme une partition dont le chef d'orchestre est l'aiguilleur. Roy foule l'impasse de l'Odé avec ses maisons face au train.
Allez, en route. On va l'accompagner direction la passerelle jaune au bout de l'impasse de l'Odé. Vous la voyez au bout de la rue ? Ne rentrez pas dans l'impasse de la minoterie. Suivez l'impasse de l'Odé. On longe les rails en suivant le trottoir de gauche. Ambiance tropicale au numéro 21, avec cet immense palmier. Vous êtes sur le bon chemin. Continuez d'avancer. Arrêtez-vous après le 23.
Roy ne peut pas savoir qu'ici, de 1911 à 1915, Joseph Mitterrand, le père de François, a été chef de gare à Quimper et qu'il habitait avec sa femme Yvonne dans une maison louée au numéro 25, dans cet emplacement. Eh oui, François Mitterrand aurait pu être quimpérois.
Continuez toujours tout droit. Vous avancez devant le portail Omnisport. Notez les balises indiquant le niveau de l'Odé qui a parfois largement inondé ce quartier. De bas en haut, janvier 95, février 74 et tout en haut, 13 décembre 2000. Marchez jusqu'à la passerelle en flânant, tout doucement.
Le voyage, c'est le mouvement. Tout en étant assis, ce sont des paysages qui défilent en même temps que les pensées. Le passé et l'avenir se confondent parfois à toute vitesse. Ce sont des promesses, des anxiétés, ce sont les départs déchirants. Le voyage en train ou en car, c'est un état de transe. Pas étonnant qu'à l'arrivée, on en oublie sa tête.
Tout en avançant, observez les arrières de la gare et arrêtez-vous au pied de la passerelle.
Bonjour, moi c'est Grand Hugo, agent d'escale. Grand ? Parce qu'on est deux à s'appeler Hugo. Alors voilà, un soir, un TGV arrive sur la voie E. Terminus, tout le monde descend. Je commence à visiter le train, pour voir s'il y a des objets abandonnés. Je trouve une housse de vêtements avec un uniforme militaire. Bon, je le prends, je descends du train, et sur le quai, je vois un homme de type indien qui regardait les numéros de voiture. Visiblement, il cherchait quelque chose. Il était 21h, c'était un train qui venait de Paris. Cet homme me dit chercher la voiture numéro 15, qu'il a un costume à récupérer. En fait, un militaire était descendu à Vannes et avait oublié son costume dans le train. Et comme il ne trouvait pas le numéro de téléphone de la gare, il a appelé tous les restaurateurs aux alentours pour demander si quelqu'un pouvait aller récupérer son costume dans le train. Du coup, moi, j'ai pris le relais du restaurateur, j'ai appelé le militaire pour lui dire que j'avais la veste. Mais un peu plus tard, je croise une contrôleuse à qui je raconte l'histoire et qui me dit « Figure-toi, on était à la pizzeria et effectivement, quelqu'un a téléphoné. » Et c'est le patron de la pizzeria qui m'a dit « On vient de m'appeler pour me dire qu'il y avait un uniforme oublié dans un TGV. » Pour un militaire, perdre son uniforme, c'est pas banal.
Et moi, c'est Cathy. Agent commercial. Je vends des billets à la gare. Figurez-vous que les gens oublient l'inoubliable. Un jour, on a récupéré un ordinateur dans le hall de la gare. Une jeune femme qui avait pris le train avait oublié son ordinateur. Dedans, elle avait sa thèse de doctorat qu'elle allait présenter à Paris le jour même, avec tous les documents dans l'ordinateur et aucune copie. Une fois arrivée à Montparnasse, elle nous a appelés en panique. Puis elle a pris le premier train qui revenait à Quimper pour le chercher, parce qu'elle avait son examen en fin d'après-midi. Elle est arrivée, elle en pleurait. Si vous l'aviez vue tellement soulagée que personne ne soit parti avec ses 3 années d'études. Incroyable. Nous, on est vigilants. On avait vu l'ordinateur. On l'avait mis de côté. On s'est bien dit que quelqu'un allait se manifester.
Vous êtes bien arrivé au pied de l'escalier monumental.
La passerelle offre une belle robe. Une silhouette élégante et majestueuse. Une ligne de sable suspendue dans le ciel bleu, telle une plage sur la mer de Cornouailles. Roy sent le vent de la mer souffler sur la gare et glisser le long des rails comme une longue note de musique qui lui donne des hallucinations. Il voit des criques avec un ciel changeant à chaque nuage, des sentiers et des ajoncs lumineux. C'est pour ça que des milliers de voyageurs viennent du monde entier et passent par la gare de Quimper. Comme cet homme âgé vêtu de blanc qui vient d'emprunter l'ascenseur.
Je suis de Suisse alémanique. Les vacances sont terminées. Nous étions à Pleusevet, au bord de la mer. J'aime beaucoup la Bretagne et je connais la région depuis 1965. J'ai commencé à apprendre le français à Zurich et nous étions 3 étudiants à faire un premier voyage ensemble. La Bretagne, puis Paris, bien sûr. Quand j'ai dit à ma femme qu'il fallait obligatoirement passer les vacances en Bretagne, elle m'a dit « Ah non, il pleut toujours !» Et maintenant, elle aime beaucoup. On est venu 12 fois, surtout en Bretagne du Sud. C'est fantastique pour nous. Cette année, pour mes 80 ans, nous étions 12 personnes dans une belle maison. Peut-être c'est la dernière fois que je viens, car la Bretagne est à 1200 kilomètres d'Augsbourg, ma région. Moi, j'aime ici le style en granit des maisons et surtout le jeu des marées. J'aime me promener au bord de l'eau, regarder la différence de niveau. Je suis professeur et à mes élèves, j'ai souvent parlé des marées. Ce rythme, c'est fantastique. Il y a 15 ans, ma petite fille est venue ici avec nous. On était au bord de la mer, nous étions sur une de ces rampes en béton pour les pêcheurs. Et je savais que nous étions juste au milieu des changements, à l'étale. Alors j'ai dit à ma petite fille, « Écoute, quand l'eau sera aux genoux, je te donne une glace. » Elle m'a répondu, « Je n'attends pas si longtemps. » Et moi je lui ai dit, « Attends, attends. » Je savais que ça faisait 6 cm par minute avec un gros coefficient. Ce rythme, c'est quelque chose qui me fascinera toujours.
Allez, on grimpe. Chacun son rythme. De là-haut, on a une belle vue sur les flèches de la cathédrale Saint-Corentin. Une fois en haut, dirigez-vous vers le centre de la passerelle, entre les 2 rangées d'escaliers. Vous êtes au milieu de la passerelle. Sur votre droite, le centre-ville de Quimper. Et sur votre gauche, les rails qui vous emmènent jusqu'à Paris. placez-vous face au rail sur votre gauche.
La gare est un lieu d'attente. L'imaginaire voyage en perspective et se projette à grande vitesse dans des ailleurs. Entre quitter son environnement et rêver d'une nouvelle vie, entre retrouver un être cher et découvrir une autre ville, tout est possible pour l'imagination du voyageur. Les salles d'attente devraient être aménagées pour permettre le temps du songe.
Salut, moi c'est Paul. J'habite en Suède. Ce matin, j'ai pris l'avion à Stockholm à 6h du mat. Puis le TGV direct. Charles de Gaulle, Quimper. Et voilà, c'est rapide. Hein. Je viens souvent ici. Je suis né à Quimper et j'ai habité 17 ans dans cet hôtel en face de la gare. Là. Il est devenu hôtel Mercure aujourd'hui. Mes parents ont dirigé cet hôtel pendant 25 ans. À la fin de mes études d'hôtellerie, je suis parti travailler sur les bateaux de croisière pendant 6 ans. Et c'est là que j'ai rencontré ma femme, qui est suédoise. Puis on m'a proposé de travailler dans le recrutement en Scandinavie. Et là maintenant, je viens voir mes parents qui ont pris leur retraite. Oh, j'aime bien me balader et retrouver mes potes à Audierne, à Pont-l'Abbé ou à Douarnenez. La France, c'est les vacances, la fête et les bons restos. Quimper, pour moi, c'est la famille et le retour aux sources.
Dans le train, on avance. On pourrait dire qu'on avance sans rien faire. Quelque chose se passe à notre insu. Et enfin, ça nous paraît banal de voyager en train. Mais autrefois, voyager, c'était des efforts et des dangers. Aujourd'hui, nous pouvons presque éprouver la sensation de la téléportation. Face à Roy, sur le quai, un type aux lunettes noires, jaquette en cuir, attend.
Salut, moi c'est Dominique. Je viens des Vieilles Charrues. Sur le festival, je suis technicien plombier. J'ai commencé en 96. Et vu que j'ai un ami qui a une maison de famille à Concarneau, avant de repartir dans l'agitation, j'ai pris un peu de bon temps. J'ai apprécié le lambig. La Bretagne, pour moi, c'est pour la France. C'est là où il y a du savoir bon vivre. Aujourd'hui, je prends le TGV pour Massy, puis RER jusqu'à La Défense, puis jusqu'à Mantes-la-Jolie, puis après, j'ai encore 12 km jusqu'à mon bateau, qui est dans une réserve naturelle. Ouais. Je vis sur un voilier qui est sur la Seine, entre Rouen et Paris. Ça fait 6 ans que je vis sur un bateau.
Maintenant, tournez-vous et regardez en direction du centre-ville et de la cathédrale Saint-Corentin.
Roy déambule sur la passerelle et croise des voyageurs comme s'il rencontrait des fantômes, des icônes de divers horizons. Comme le croisement des gens jamais partis et ceux qui sont de passage. Les voyageurs se jaugent, s'écoutent pour animer des souvenirs joyeux pour certains et des regrets pour d'autres. Ces deux femmes qui s'enlacent semble heureuse de se retrouver.
Moi, c'est Christine. Je suis venue voir ma sœur qui habite à Douarnenez. Ma sœur, c'est ma vie, c'est mon binôme, quoi. On n'a que 19 mois d'écart. On est toutes les deux nées rue de Belleville, dans le 20e arrondissement. Dans le Paname d'avant, quoi. Mais elle a réussi à offrir un avenir à ses enfants, en venant en Bretagne.
Et moi, c'est Sylvie. J'habitais en banlieue et j'avais envie de donner une chance à mes enfants. Leur offrir une qualité de vie. Qui voient autre chose qu'un bout de parc entre deux immeubles. Ici, quand tu sors de l'école, tu vois la baie immense. La baie, quand j'emmène mes mômes au Plomard, je me dis juste, c'est magique, quoi. J'adore Douarnenez. Mes enfants ont connu des gens de tout horizon. Ma fille est monitrice de voile, elle va avoir son diplôme. Et mon fils, il va bien.
Reprenez votre marche. Au bout de la passerelle, empruntez le grand escalier qui vous fait descendre sur le parvis de la gare. En face de vous, le clocher Sainte-Thérèse et en bas, la petite passerelle du nouveau jardin. Vingt, vingt et un, vingt-deux, vingt-trois, vingt-quatre, vingt-cinq. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 41 marches. Ça y est, de retour sur le parvis. Chaque jour, plus de 5000 personnes foulent les pavés qu'il y a sous vos pieds. Afin de profiter totalement de la fin du récit d'Erwan Perec, installez-vous confortablement. Asseyez-vous par exemple sur ce banc en bois, juste en face de vous.
À ce moment, je perds le fil de mon roman. Et en même temps, le dénouement approche. Tous ces personnages qui vous ont parlé sont des personnes que j'ai rencontrées pour écrire ce récit. Elles sont l'âme attachante et précieuse du quartier. Chaque année, pendant 4 ans, pour écrire, je revenais en ces lieux, prenant des nouvelles, m'enquérant de la santé des uns et des autres. J'observais l'avancée des travaux sans rater aucune étape. Et puis, il y a eu ce soir de novembre 2022. Le jour où la passerelle a été posée, j'ai enfin compris que ce qui m'attachait à ce quartier était bien plus qu'un projet d'écriture. Pour vous raconter cet épisode incroyable, j'ai invité Odette. Voici notre récit.
Je m'appelle Aude. J'ai grandi impasse de l'Audet. Enfant, tout le monde m'appelait Odette.
Moi, enfant, j'ai vécu avec ma mère à Aurillac. Ma chambre donnait face à la gare. Je m'endormais le soir avec les ronronnements du train qui partait pour Paris. Et tous les matins, je traversais les voies pour me rendre à l'école. C'est pour ça que j'adore les gares. Donc, je suis venu assister à la pose du tablier de la passerelle. Je songeais en moi-même que je poserais bien aussi mon tablier. Trop d'années que je bourlingue.
C'est dans ce quartier de la gare que j'ai vécu avec ma mère, Colette Perec. Et aujourd'hui, je suis enthousiaste et même heureuse à l'idée que ce quartier ait trouvé un nouveau souffle.
Ce soir-là, à l'heure précise où la grue a posé le tablier sur les escaliers de la passerelle, j'ai appris que j'avais une sœur.
Mes parents se sont séparés lorsque j'étais enfant. Et je suis restée vivre avec ma mère. Il y a quelques années, elle m'a raconté que mon père avait eu un premier enfant, qui s'appelle Erwan.
C'est comme si la passerelle nous avait réunis. Je ne connaissais pas l'existence de cette sœur avant ce soir-là. Tandis qu'on guettait avec émotion le tablier se poser, une personne des travaux m'a raconté que de l'autre côté de la voie, une certaine Aude cherchait à rencontrer Erwan Perec.
Le 22 novembre 2022, j'ai vécu un moment incroyablement fort, émotionnellement. J'étais venue car j'avais appris qu'un écrivain nommé Erwan Perec serait présent.
Grâce à cette passerelle, j'ai découvert une grande partie de la vérité. Un sentiment d'éclaircie, que mon père avait eu une fille après avoir quitté ma mère. Elle s'appelle Aude, elle a 9 ans de moins que moi, et depuis son adolescence, elle a cherché en vain à me retrouver.
D'après les souvenirs de ma mère, mon père, Étienne Perec, avait abandonné son fils dans le sud de la France. Après cet abandon, il était revenu dans le quartier de la gare de Quimper, d'où il était originaire. Étienne Perec a vécu son enfance avenue de la Libération, au 14, car notre grand-père tenait le bar qui s'appelle le Libé, aujourd'hui Bar Tabac.
Ma mère est morte, j'avais 18 ans. J'ai jamais posé de questions sur ma famille maternelle. Je savais juste que mon père était breton.
Mon père jouait sur les voies. Dans l'avenue de la Libération, il avait grandi avec Le Reste, ceux qui tiennent la boutique Roche-Beaubois, les Kévenec, les Le Pape. À l'époque, avenue de la Libération, il y avait même un cabaret avec Radio Crochet. Et notre père y chantait souvent cette chanson d'Eddie Constantine. « Je ne suis pas née sur terre. » Et ma mère me chantait cette chanson que fredonnait mon père.
Et moi aussi, ma mère me la chantait. Je ne savais pas que c'était mon père qui lui avait apprise. Je vais pêcher dans les ruisseaux, chasser dans les roseaux.
Ou cueillir les fruits mûrs que m'offre la nature.
On ne m'a pas mis sur terre pour me tuer à travailler.
Mais pour vivre à ma manière et goûter à la liberté.
Et rêver.
et sourire, et bâiller, et dormir.
Je me lave à l'eau de pluie, et me séchant au soleil.
Je rêve à ma tendre amie, et y a vraiment rien de pareil.
Et quand presque à la nuit tombée, on peut se retrouver. C'est un si grand plaisir qu'on reste sans rien dire.
En retrouvant Odette, j'ai aussi découvert que mon père était oisif, un amateur de l'esprit du vent. Il ne souhaitait pas agir sur la nature et sur les êtres, en tout cas le moins possible. Un utopiste. Mais bon, en poussant les limites, il en est arrivé à ne pas élever son fils.
Et sa fille. J'ai eu le sentiment d'avoir grandi à l'état sauvage. Notre père a toujours su voyager, trouver à manger et dormir souvent dans des endroits sublimes et poétiques. Du point de vue des responsabilités, il n'aimait pas ça, alors il a disparu.
Moi, je rêvais d'avoir une sœur.
Je l'ai cherché, mon frère. J'ai cru l'avoir trouvé en Amérique du Sud. J'avais envoyé un courrier à un missionnaire qui m'a répondu par mail. J'y ai cru, avant d'apprendre qu'il s'appelait bien Erwan Perec, mais d'origine suisse. Il ne pouvait pas être mon frère. J'ai cru aussi l'avoir trouvé en Nouvelle-Calédonie. Un ancien militaire qui avait épousé une femme kanak, dont les quatre enfants s'appellent Perec, et qui avait une entreprise de plongée sous-marine, qui offrait entre autres de nager au milieu des tortues. C'est une amie qui était partie en vacances là-bas qui m'a donné ce faux espoir.
Toute cette soirée-là, j'ai ressenti une excitation à l'idée que cette passerelle soit posée. Vous connaissez cette sensation ? Quand en botte fort intérieure, vous savez que quelque chose d'agréable va arriver. C'est comme si on était déjà heureux à l'idée de boire un bon vin, de passer une bonne soirée, de retrouver une personne qu'on aime. C'est comme une joie anticipée.
Ce fameux soir, nous étions réunis. Certains m'ont confié leurs espoirs que cette passerelle puisse apporter un confort à leur vie. Et moi, je ne savais pas encore ce qu'elle allait m'apporter à moi.
Après la pose de la passerelle, ce soir-là, je rentre à mon hôtel. Et au moment où j'arrive au passage à niveau de l'impasse de l'Odé, là, je vois une personne qui cherchait quelque chose sur la voie.
Au moment où je rentrais chez moi, en arrivant au passage à niveau, j'ai sorti mes clés. Et là, par inattention, je laisse tomber les fichues clés entre les rails.
De loin, dans le silence éclairé du réverbère, j'ai cru que c'était une illusion. C'était bizarre de voir cette personne à genoux au beau milieu de la voie, à 2h du matin.
Pendant un moment, j'ai éclairé avec mon téléphone, mais la clé semblait coincée sous la traverse et le ballast. Il me fallait un objet crochu pour l'attraper. J'avais tordu un fil de fer, mais ça n'a pas suffi.
Je me suis rapproché en essayant de ne pas l'effrayer. Je lui ai demandé si elle avait besoin d'aide.
Je lui ai répondu. Volontiers, je viens de laisser tomber mes clés sur la voie. J'arrive pas du tout à les récupérer. Alors si vous avez un couteau suisse, une canne à pêche...
En effet, en regardant de plus près, un bon pied de biche aurait fait l'affaire. J'ai réussi à trouver dans le fossé une barre en fer. Et là, pendant que je faisais levier...
J'ai réussi à glisser ma main et à récupérer mes clés. Puis il m'a demandé ce que je pensais de la nouvelle passerelle posée au-dessus de la gare.
Oui, oui. Et je lui ai dit que j'avais assisté à la pose du tablier. C'était une magnifique émotion, à la hauteur de la beauté de l'ouvrage.
Je lui ai dit que cette passerelle suspendue était pour moi une belle soirée, mais aussi un fol espoir, puisque dans l'assistance ce soir-là se trouvait apparemment un Erwan Perec écrivain, et que c'était le nom de mon introuvable frère.
Je l'ai regardé, figé. Mon corps était empoté. Ma bouche a frémi. J'ai pas réussi à prononcer le moindre mot. J'ai senti mes yeux qui commençaient à s'humidifier.
J'ai vu qu'il me regardait avec un sourire profond. Et j'ai vu une larme couler sur sa joue. J'ai compris.
Elle a fait un pas vers moi et m'a dit « Je suis Odette, Perec,
Tu es Erwan ?
Génial. Nous nous sommes trouvés.
C'est magnifique pour moi de faire ta connaissance.
Et là, nous avons discuté. Nous nous sommes assis sur le trottoir.
On a raconté, échangé nos histoires jusqu'à l'ouverture du buffet de la gare vers 6h du matin pour aller boire un café.
Voilà, chères auditrices et auditeurs, l'histoire de Roy n'est pas terminée. Je n'ai pas achevé mon roman, mais j'ai tout mon temps, car j'ai décidé de m'installer à Quimper. C'est la fin d'un chapitre. Quant à la gare, vous vous en doutez, c'est elle qui a gagné en 2023 le prix Garec pour cette rénovation réussie qui a changé le cours de ma vie. Et voilà comment j'imagine le début du chapitre 2. Roy a bien dormi. La nuit est calme. Il entend comme un train qui ronronne prêt à partir. Il se lève de son lit, se présente devant la fenêtre de la chambre d'hôtel qui offre une vue imprenable sur la gare de Quimper. La belle endormie, prête à révéler ses secrets. Il est 5h30. Le calme est total sur le parvis. Aucun véhicule. Le parking est désert. Roy s'habille. Quelques instants plus tard, seul, il surgit sur le parvis comme une bête sauvage qui profite de cet instant magique, où tout est vide, où les sons et la lumière laissent place au début d'une nouvelle histoire disponible, de rencontre, d'une nouvelle journée.
Vous venez d'écouter les portraits sonores d'Erwan Perec, une balade sonore dans le quartier de la gare de Quimper. Ce projet artistique s'inscrit dans le réaménagement de la gare de Quimper et des espaces publics alentour. Nous remercions chaleureusement tous les habitants, commerçants, travailleurs et voyageurs de la gare de Quimper qui ont livré leurs souvenirs et anecdotes. Écriture et direction artistique, André Laïus. Et par ordre d'apparition, les voix de Letty Pardalis, Eddy Froget, Eddy Delpino, Philippe Languille, Alice Millet, Agathe Otavi, Hélène Kroguenok, Christophe Briand, Alice Keva, Anouk De Gors et Mechtilde Kerhuel. Prise de son et montage, Patrick Rocher et le studio Nomade Productions.